restreinte et territoriale.
C'est bien, vous avez bien révisé.
Bon, c'est, je suis à fond dedans, c'est, j'adore ça.
Bienvenue sur Studio ZEF, c'est Paroles aux Assos, première émission de l'année. On est très content de venir vous parler sur les ondes. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va avoir deux sujets en une émission. On va d'abord présenter l'association Cressol. L'association Cressol existe depuis 2003. Elle a pour but de rassembler les acteurs de l'économie sociale et partager avec le plus grand nombre l'idée d'une économie plus responsable au service de l'homme et non l'inverse. Eh bien, dans une deuxième partie de cette émission, nous parlerons d'un projet, d'un collectif monnaie locale et complémentaire. Et pour l'instant, nous accueillons Stéphane Sandeau.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume.
Raymond Lerat.
Bonjour.
Et Frédéric Misséré-Jean, c'est bien ça ?
Oui, Messire-Jean.
Messire-Jean, pour nous parler du Cressol. Et après, vous nous parlerez du collectif Monnaie Locale et Complémentaire, mais ce sera dans une deuxième partie de l'émission avec une autre casquette. On le sait très bien, les acteurs associatifs sont souvent dans plusieurs collectifs ou plusieurs associations, et c'est votre cas.
Exactement.
Exact, oui.
Eh bien, pour nous présenter le Cressol, j'aimerais qu'on puisse revenir sur les origines du Cressol. Donc, il a été créé en 2003, c'est bien ça. J'aurais aimé savoir quelle a été l'impulsion, l'élément déclencheur en fait, de cette création de ce réseau.
Bon, on va commencer fort avec cette question piège. Parce que, pourquoi piège, je dis piège Guillaume ? Parce que nous sommes tous les trois des récents du Cressol. Mmh. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la dynamique économie solidaire. Comme tu l'as dit, l'économie utile à l'homme et non le contraire. Et nous avons rejoint, moi, il y a 2 ans et demi, Frédéric aussi, et Raymond, je crois, il y a
6 mois.
Ouais, voilà, c'est ça.
6 mois, oui.
Et du coup, au niveau historique, on n'est pas tout à fait calé. On sait quelles sont les actions actuelles. Les missions du Cressol qui sont très importantes, c'est-à-dire les 3 missions principales. La première étant de faire réseau parmi les structures de l'économie sociale et solidaire dans la région centre, sachant que le Cressol fait lui-même partie du réseau national, le MES, Mouvement pour une économie solidaire. La deuxième mission, c'est la mission de sensibilisation à la fois des élus et de la population, du grand public, à ce que c'est l'économie solidaire. Et la troisième, c'est l'accompagnement d'initiatives, qu'elles soient individuelles ou collectives en économie solidaire, sachant que, bon, en deuxième partie de l'émission, vous aurez l'exemple d'une initiative collective, d'un collectif d'habitants qui veut lancer une monnaie locale complémentaire. Ça fait partie des choses que le Cressol soutient par de l'aide logistique, du prêt, de salles de réunion ou ce genre de choses.
Donc, si j'ai bien compris, il y a un réseau, soit d'associations,
oui,
d'entreprises, de SCOP.
On est surtout sur des associations.
Surtout des associations. Mais comment on crée ce réseau et comment on fait du lien entre ces différentes associations ? Parce qu'on imagine que les associations ne se connaissent pas forcément avant de rentrer au Cressol et doivent devenir membres du Cressol. Et il doit y avoir des outils, des choses mises en place pour qu'elles apprennent à se connaître, ces associations.
Quand on est une association dans un certain domaine, on se rend compte très vite que d'autres associations existent avec le même domaine d'intérêt un petit peu partout dans la région. On ne les connaît pas forcément. Et on se dit, si on faisait synergie avec toutes les associations qui étaient dans un même domaine, ça pourrait avancer plus vite, aller plus loin, on pourrait se donner des conseils, et ainsi de suite. Et je pense que le besoin d'être en réseau, ça vient de là. L'économie solidaire, c'est juste une autre façon de voir l'activité humaine. Donc, ça touche tous les domaines, que ce soit l'habitat, l'environnement, l'énergie, même le lien humain, simplement, et l'activité sportive. Donc, quelque part, pour aller au-delà des réseaux de domaines, aller vers un réseau de façon de penser l'activité humaine, c'était important. D'où la naissance de Cressol.
Il y a d'ailleurs, pour continuer sur ce que dit Stéphane, il y a un outil qui a été créé récemment qui s'appelle Archipel. C'est une carte participative qui se trouve sur l'adresse du réseau, de l'adresse Cressol. Et cette carte participative regroupe sur la région centre environ 400 associations qui sont répertoriées. Et tout membre d'une association peut aller sur cette carte et rentrer les éléments qui sont liés à la propre association et de géolocaliser. Il peut y avoir également une mise à jour régulière des événements qui se passent dans chacune de ces associations, puisqu'il y a une modération qui est en temps réel. Donc c'est un outil d'information qui est assez clair, et nous en diffusons l'information actuellement.
Alors un outil participatif, c'est-à-dire que n'importe qui peut ajouter une association, ou faut être membre du CRESO
pour le
faire ?
Non, c'est collaboratif.
Collaboratif, oui.
Vous utilisez souvent ce genre d'outils participatifs ?
Oui, et d'ailleurs, ça fait partie également d'une des caractéristiques de notre association et de l'association Réseau, et donc du réseau d'associations, c'est cette volonté de faire participer de façon démocratique les membres d'associations. Mais pour ça, il faut des outils. Avec le développement du numérique, beaucoup d'outils numériques permettent d'améliorer l'échange d'informations et les décisions en commun. Le CRESOL apporte également une expertise et un soutien auprès des différentes associations du réseau pour l'utilisation de ces outils. Elles sont très demandeuses de ça, et ça fait partie également de nos missions.
D'accord, donc ouvrir pas seulement les esprits, mais aussi ouvrir un peu Internet pour pouvoir communiquer. Alors, entre soi.
C'est pas forcément... Le numérique n'étant qu'un outil, c'est quand même dans l'idée d'améliorer la transmission d'informations, les prises de décision et la participation de tout le monde dans une association. Tout le monde a sans doute souvenir d'une association proche de lui où on disait qu'il y avait des problèmes de gouvernance avec quelqu'un qui prenait peut-être trop de place, ou les informations qui passaient pas, ou une désaffection des adhérents et ce genre de choses. Donc on travaille également sur potentiellement des solutions de connexion entre les personnes grâce aux outils numériques.
C'est souvent une problématique qu'on rencontre d'ailleurs dans différentes structures qui travaillent autour de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des problèmes de gérance des fois, parfois...
Les conflits d'égo de personnes est naturel et c'est difficile à éviter, mais l'expérience que nous vivons ensemble d'ailleurs à travers le projet de la monnaie locale complémentaire ou autre permet vraiment de se familiariser à ce type de communication.
Alors ensuite, il faut faire attention, les outils numériques sont des outils qui peuvent aider, mais il y a également d'autres outils. Nous avons dans l'association, au niveau du CRESOL, beaucoup étudié et acquis une expertise dans la facilitation de réunions, la facilitation de prise de décision, parce que coopérer n'est pas si naturel que ça. Non, il faut se former à la coopération et... Nous proposons des prestations d'accompagnement et d'animation d'AG, de conseil d'administration, avec des outils de facilitation qui existent, qui sont basés soit sur de la sociocratie, soit sur des choses qui sont plus... qui ont pour but de générer des débats très ouverts auprès d'adhérents, comme des forums ouverts ou des cafés-débats ou ce genre de choses. Et on propose ces outils-là aussi, qui ne sont pas évidents à avoir au niveau... Enfin, voilà. On apporte cette aide-là également au niveau de la région centre.
Est-ce que vous avez des exemples de coopération entre associations, entre membres du CRESOL qui ont été aboutis grâce à ces outils, grâce à cet accompagnement que fait le CRESOL ?
Eh bien, récemment, je ne vais pas citer le nom de l'association, mais une association nous a contactés parce qu'elle était en difficulté justement au niveau de sa gouvernance, et on a fait un accompagnement de l'Assemblée Générale de l'association pour réussir dans un cadre bienveillant à ce que tout le monde puisse s'exprimer sur les problèmes qu'ils avaient identifiés chacun de leur côté sur le fonctionnement de l'association pour essayer ensuite ensemble de construire des solutions. C'est important d'abord de laisser couler la parole, que chacun puisse s'exprimer, et ensuite ensemble potentiellement de chercher des solutions. Donc ça, c'était quelque chose qui s'est passé dans une des associations. Et sinon, cette expertise sur la coopération nous fait aussi prendre part à quelque chose qui est assez neuf, qui date de l'année dernière, avec le projet de loi sur l'ESS de Benoît Hamon, c'est la mise en place de tout ce qui est pôles territoriaux de coopération économique. Alors c'est un gros mot pour dire...
Mais ça peut faire peur aux auditeurs. Ouais. Ne vous inquiétez pas, nous allons expliquer tout ça.
Les pôles territoriaux de coopération économique, c'est on prend un territoire, on prend différents acteurs du territoire, à la fois des acteurs économiques classiques comme des entreprises privées, des associations, des personnes du public, de l'enseignement, de la recherche, qui sont tous intéressés, qui ont leur activité autour d'un même thème, et on essaie de les mettre autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le fonctionnement au niveau territorial sur ce thème précis faire plus ensemble qu'on ne pourrait faire chacun de son côté. Il y a deux exemples.
Ça casse la concurrence un peu en fait.
Et ben justement, coopération, concurrence, oui, c'est un petit peu... c'est pour qui... Chaque entité existe quand même de son côté, mais avec la coopération, on peut faire encore des choses encore plus grandes. La synergie peut réussir à améliorer le quotidien dans un domaine. Donc on a deux exemples en région centre. On a le pôle territorial de coopération économique Copaxis, qui a été primé par un appel à projet étatique l'année dernière. Et Copaxis, c'est les outils du numérique... c'est l'innovation sociale par les outils du numérique. Mmh. Donc comment utiliser les outils numériques pour initier de l'innovation sociale. Et le CRESOL est avec la coopérative d'activité et d'emploi Artefact. C'est les deux soutiens du... les deux initiateurs du projet. Maintenant, il y a plein d'acteurs dans Copaxis. Et nous sommes également en travail sur un autre pôle de coopération, pôle territorial de coopération économique, sur l'éco-construction et la BTA participatif. Alors là, du coup, c'est un pôle en formation, mais également pour permettre à tous les acteurs de ce domaine, de l'éco-construction, de se connaître entre eux et de faire des synergies au niveau territorial également.
D'accord, très bien. Vous travaillez sur quelles valeurs à transmettre avec le CRESOL ?
Eh bien, le CRESOL se définit dans l'économie solidaire.
D'accord.
Et l'économie solidaire, c'est quelque chose de bien particulier, en fait. Aujourd'hui, on a tendance à mettre l'économie solidaire avec l'économie sociale, hein, économie sociale et solidaire, ESS. Mais historiquement, c'est deux mouvements qui sont quand même assez disjoints et qui se sont regroupés pour peser un peu plus dans les décisions politiques. L'économie sociale, c'est ce que beaucoup de personnes connaissent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se met ensemble pour faire les choses, comment est-ce qu'on s'organise ensemble. Les associations, les SCOP, les mutuelles, c'est comment est-ce qu'on s'organise ensemble autour de l'outil de production ou de l'activité qu'on veut faire ensemble. L'économie solidaire, elle, c'est on s'organise ensemble, mais pour produire quoi ? Mmh. Dans quelle finalité ? Pourquoi on le fait ? Donc bien sûr qu'on a un sous-jacent d'idées, on ne va pas le faire forcément pour notre profit personnel ou pour accumuler de la richesse, mais plutôt dans l'esprit de développer une société respectueuse à la fois de l'homme et de l'environnement, oui.
Dans le bien, un bien d'intérêt commun en fait, c'est ça ?
C'est un peu ça, oui.
D'accord, très bien, merci. Le CRESOL aussi, donc on l'a dit, une mission d'accompagnement. Est-ce que cet accompagnement peut être matériel ou financier par rapport à des projets menés ?
Alors, matériel, ça arrive assez souvent que nous fassions de l'aide logistique à des collectifs qui sont en formation et de l'aide également... au niveau de l'animation de réunion et tout ça. Bon, certains passent par de la prestation, parce que tout le monde maintenant le sait un petit peu, les associations ont besoin de générer leur propre entrée d'argent pour pouvoir fonctionner. Mmh. Les subventions ne sont plus forcément suffisantes, et les différentes collectivités territoriales et l'État... ne sont pas dans des... leurs finances ne sont pas dans un état suffisant pour pouvoir faire fonctionner toutes les associations du territoire.
Est-ce que le CRESOL peut prêter, donner de l'argent ?
Ça, ce n'est pas le cas. Mais par contre, oui, ce que nous faisons, c'est vraiment le côté réseau. La finance solidaire fait partie, est un concept également qui est attaché à l'économie solidaire. Donc on s'intéresse beaucoup à la finance solidaire.
Et alors, on peut définir un peu le principe de finance solidaire ?
Alors, finance solidaire, c'est tout ce qui sera financement où on s'intéresse au sens et à l'accompagnement des porteurs de projets, au sens du projet et à l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, par exemple, Raymond fait partie d'une cagnotte.
Oui, la cagnotte 41, qui est bien connue sur la région de Blois, puisqu'elle a une quinzaine d'années d'existence. Et en fait, chaque membre... est actif dans cette cagnotte, puisque finalement il y a nous avons une participation qui est mensuelle. Chacun est acteur et donc participe à l'alimentation de cette cagnotte. Il peut y avoir un grand nombre effectivement d'acteurs. Il peut y avoir également des donations qui sont faites par certains organismes caritatifs. Et ça peut mener à gérer plus d'une dizaine de projets à l'année. Et ce sont donc des prêts qui sont réglementés, puisque ce genre d'association peut prêter jusqu'à 3 000 euros à un porteur de projet. Et le principe, c'est que lorsqu'un porteur de projet est identifié, il a déjà effectivement réalisé un travail sur son projet via un organisme. Certains sont attachés à l'ISMER, sont en couveuse, et ils ont déjà un prêt principal qui leur est accordé sur leur projet. Et lorsqu'ils se présentent à la cagnotte, c'est pour avoir effectivement un prêt à taux zéro complémentaire. Ils pourront négocier, si leur projet est accepté, un échéancier de remboursement. Mais le principe d'accueil du porteur de projet, ce n'est pas un principe, je dirais, d'esprit mercantile où on va analyser, comme le ferait une banque, les aspects systémiques. On va vraiment s'attacher au profil de la personne. Mmh. Et c'est tout ce qui change. Et moi-même, je suis jeune retraité, on va dire, et passionné par l'économie et l'histoire. Des amis m'ont proposé de rejoindre cette cagnotte, et j'y ai vraiment trouvé un esprit d'attention réelle à ces projets et une autre façon de considérer les choses. Et je dois dire que c'est probablement ce qui m'a poussé à continuer dans l'aspect solidaire. Parce que c'est un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous considérez la faisabilité d'un projet sur le plan technique de façon rigoureuse, mais c'est le côté humain qui prend le pas. Et il y a donc un comité d'attribution qui se réunit dans ces cagnottes. Et le porteur de projet présente. Ensuite, nous avons une délibération assez rapide. On peut demander au porteur de projet de revenir. Mais lorsqu'il vient, il a déjà parfaitement structuré ce projet. Et souvent, la cagnotte, par rapport même à des établissements bancaires, le choix de suivre ou de ne pas suivre ce projet a une audience auprès des établissements financiers. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est réellement bien en place.
Et reconnu.
Et reconnu, voilà.
Pour résumer un peu le fonctionnement, il y a des adhérents.
Il y a des adhérents.
Qui prêtent de l'argent, donnent de
l'argent.
Nous
sommes, lorsque l'on adhère effectivement à la cagnotte, nous sommes sociétaires en fait. Mm-hmm. Et nous accordons, sont des sommes généralement moyennes qui sont de l'ordre de 10 euros chaque mois. Et il peut y avoir une centaine même de personnes qui adhèrent à cette cagnotte. Mais il y a un comité d'attribution avec les membres dont font partie les membres du bureau qui reçoivent effectivement les porteurs de projets. Et vient se greffer aussi des présentations de l'activité de la cagnotte sur les organisations caritatives qui, là, bonifient vraiment le trésor de guerre de la cagnotte qui permet d'alimenter ces prêts. Et moi, je m'aperçois que finalement, sur le taux d'échec, je dirais, de ces projets, puisque à chacune de nos réunions, nous faisons le point sur la situation donc du porteur de projet, c'est le trésorier, la secrétaire qui en parle. On voit très bien les personnes qui sont en difficulté, mais le taux de réussite est est vraiment très, très positif.
Combien à peu près de,
écoutez, je
de
dirais
projets suivis
il peut y avoir entre 10, 15 projets suivis à peu près à l'année. Là, la cagnotte dont je vous parle a quand même un retour d'expérience qui est assez important.
Donc c'est la cagnotte 41, c'est ça? Elle est basée à Contres?
Non, c'est une... vous faites bien de souligner, car la présidente m'en a parlé pas plus tard qu'hier. On a eu un échange de mails. Et je vais modifier cette information, parce qu'effectivement, elle est basée à Blois. Pour le coup, là, c'est effectivement une information qui est donnée généralement sur le Cressol, mais la carte archipel, pour le coup, est bien renseignée.
D'accord. Donc voilà.
Voilà.
Donc l'outil fonctionne bien, Archipel fonctionne bien. Voilà. Très bien. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons donc changer de casquette et voilà, enfin pas moi, mais les invités. Donc je le rappelle, Stéphane Sando, Raymond Lera, Frédéric Messire-Jean, voilà, qui font tous les trois partie du Cressol, mais qui sont aussi, ils font partie du collectif Monnaie Locale Complémentaire à Tours, pour le préciser. On va tout de suite écouter la définition faite par David Kella, économiste à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés, qu'on a enregistré le 18 septembre au Café Labo à Blois, où il faisait une conférence sur l'économie sociale et solidaire. Et il nous a notamment défini ce qu'était une monnaie locale et complémentaire. On l'écoute, puis après je vous laisse rebondir sur son intervention. A tout de suite.
Bien, alors j'ai essayé de brosser à grands traits ces différents aspects de l'économie sociale et solidaire, et donc on voit bien qu'ici les objectifs de toutes ces structures dont j'ai parlé, c'est bien de répondre à une problématique importante du capitalisme, c'est-à-dire le problème que pose l'appropriation privée du capital, privée et souvent unique par une personne qui, possédant le capital, peut diriger énormément de choses, et par le problème de l'accumulation qui fait que quand on accumule tout ça, tout ce capital auprès d'une personne, on a des gens qui deviennent comme Bolloré, des espèces de... En fait, Bolloré, il a le mérite d'être né, c'est un héritier quand même à la base. Et donc, voilà, et parce qu'il est né, parce que ce capital est transmis de génération en génération, eh bien, il peut maintenant décider des programmes qu'on va regarder à Canal+. Oui, de quel droit Oui, donc voilà, donc cette forme d'injustice fait qu'on essaie d'organiser le capital différemment, en le répartissant selon des différentes logiques, les usagers, les travailleurs, les pouvoirs publics et autres. Le problème, c'est que tout bute sur un certain nombre de difficultés. Et la première difficulté, c'est que toutes ces tentatives de créer une autre économie à partir d'une gestion différente du capital ne répond pas au problème fondamental qui est que nous vivons dans une société de marché, qui est que nous sommes dans un environnement capitaliste et on a ici que quelques îlots qui à eux seuls ne peuvent pas faire basculer l'économie d'une autre manière. Ce que je disais tout à l'heure, on a eu en 1945 une grande part du capital privé qui a été nationalisé en France et malgré ça, on n'est pas devenu un pays communiste. On a eu le développement très important du système mutualiste, mais vous voyez qu'il a fini lui-même par singer les logiques du capitalisme. Et donc, finalement, on ne remet jamais en question le fond de l'affaire, c'est-à-dire la logique marchande. Aujourd'hui, les Lejabis, qui ont repris leur entreprise sous forme de scope, il me semble qu'elles sont en difficulté. Ah, c'est fini, voilà, c'est ça. mais je n'ai pas révisé avant de venir, donc... Le truc, c'est que toutes ces sociétés qui essayent de survivre réappropriant le capital, enfin redistribuant le capital aux salariés, eh bien, elles sont toujours confrontées à la logique du marché. Il faut toujours qu'elles soient efficaces, qu'elles soient compétitives, qu'elles augmentent leurs marges pour survivre, pour avoir confiance, pour donner confiance aux banques qui vont les financer. Et donc, la réalité, c'est que finalement, la logique même du marché, elle s'impose aussi à ces structures-là. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la difficulté qu'on a eue, qui s'est avérée au cours du XXe siècle de contrôler le capitalisme à travers ces systèmes-là, a fait que certaines personnes ont essayé d'inventer d'autres systèmes. Si le problème c'est le marché, eh bien on va essayer de contrôler le marché. Or, comment fait-on pour contrôler le marché ? Certaines personnes se disent qu'il n'y a qu'à contrôler la monnaie. Finalement, si on veut retourner à la racine du mal, c'est bien le problème de la monnaie qui est au cœur du problème. La monnaie est une institution fondamentale, c'est bien l'outil qu'on utilise pour accumuler, c'est bien ça qu'on va chercher. C'est bien la monnaie qui détermine la valeur, c'est la monnaie qui est cet objet de convoitise qui fait qu'on va vouloir tellement l'accumuler qu'on va chercher à devenir plus riche que les autres. Et donc un certain nombre de personnes, de penseurs, se sont dit, bien voilà, on n'a qu'à agir sur la monnaie pour essayer de contester le système, créer un système alternatif ou un système complémentaire qui nous... permet de sortir de cette logique de concurrence, de marché, de marchandisation de tout. Et donc c'est un peu l'objectif des monnaies locales complémentaires. Avant ça, il y a quelque chose qui ressemblait un peu à, qui peut ressembler à ces monnaies. C'est par exemple, vous avez entendu parler des AMAP. Les AMAP, c'est les associations Voilà, pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et alors, ça repose sur quoi? Ça repose sur une forme de contrat entre producteur et consommateur, où le consommateur va payer un abonnement, en quelque sorte, à un agriculteur qui va lui fournir toutes les semaines un panier qui correspond aux produits de saison, à ce qu'il a produit. Alors, l'idée des AMAP, c'est très intéressant. C'était là aussi de c'était de casser le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marché, quoi. Il n'y a plus de vente. Enfin, il y a un abonnement. Il y a des services qu'on se rend. Même s'il y a toujours de la monnaie dedans, c'est plus du tout la même logique. C'est pas du tout la logique marchande. Donc, on est dans des structures associatives et on crée aussi un système sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est directement l'acheteur, le consommateur, il est directement confronté aux paysans. Et on voit bien ici que l'idée, c'est bien d'attaquer le problème à la racine, en quelque sorte, via le développement de relations, de relationnel entre le paysan et le consommateur. Alors, les monnaies locales complémentaires, c'est un peu la même chose. La différence, c'est que là, on n'est pas dans un système uniquement avec un producteur ou des producteurs d'un seul bien. Les monnaies locales complémentaires, c'est l'idée de créer un nouveau système économique qui soit porteur de valeur et dans lequel on va associer, comme pour les AMAP, les producteurs. Mais cette fois-ci, ils sont très nombreux et ils peuvent produire des choses différentes avec les consommateurs. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, on a une association qui va émettre une monnaie. Alors, par exemple, à Angers, ça s'appelle la Muse. Hein, on a le sol à Toulouse, on a très nombreux types de monnaies. Et ces monnaies sont utilisables dans un certain nombre de marchands. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre argent, nos euros, dans cette monnaie et on va pouvoir l'utiliser chez les marchands. Alors, vous allez me dire, mais quel intérêt? Puisque finalement, on peut très bien acheter ces marchands en euros. D'ailleurs, il n'y a pas des marchands qui n'acceptent que ces monnaies complémentaires. Hein. Donc pourquoi est-ce que s'embêter à convertir d'abord sa monnaie, ses euros, en une autre monnaie et puis ensuite faire des achats? Mais parce que, en fait, l'idée, c'est de créer un réseau de certification, en quelque sorte. C'est-à-dire que les producteurs, ceux qui vont s'insérer en tant que producteurs, en tant que marchands dans ce système-là, ils vont devoir rendre des comptes à la structure associative, c'est-à-dire partager un certain nombre de valeurs, qui ne soient pas uniquement la manière dont ils produisent, mais ceux qu'ils produisent, leurs effets sur l'environnement, etc. Donc ça, c'est des chartes. Et en fait, ils sont adoubés par les consommateurs, par la structure associative qui est portée à la fois par les consommateurs et par les producteurs. Et on essaye ainsi d'organiser des échanges selon un sens précis qui n'est pas celui, le sens simplement du marché et du profit maximal. Donc en fait, ces monnaies sont des monnaies qui cherchent à créer un réseau économique, un réseau de relationnel, qui soit, vous voyez, un peu comme les AMAP, mais sur une échelle beaucoup plus large. Alors la particularité aussi des monnaies locales complémentaires, c'est qu'elles sont territoriales. L'idée, c'est aussi de rapprocher, hein, c'est comme pour les AMAP aussi, on rapproche l'acheteur du producteur, on rapproche les gens, on crée des structures associatives, on se réunit régulièrement, et ainsi, chacun est partie prenante du système. Du coup, tout ça s'appuie sur des chartes liées à la structure associative, hein, la sélection des producteurs. Donc voilà, il faut qu'ils acceptent cette notion. McDo ne sera pas dans la monnaie locale, hein, parce que finalement, alors d'ailleurs, on pourrait se poser la question, hein, pourquoi pas. Mais ça fait partie des grandes questions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit d'accord sur les valeurs qu'on porte. Est-ce que les valeurs qu'on porte, c'est des valeurs de redynamisation du territoire, par exemple? Est-ce que c'est des valeurs écologiques? Est-ce que c'est des valeurs marchandes, hein, ou non marchandes, plus précisément? Est-ce que c'est le type de bien qu'on vend ou est-ce que c'est la manière dont on fabrique? Alors, tout ça, c'est des grandes questions. Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend des chartes, ça dépend des monnaies locales. Il y en a qui seront plus tournées vers l'écologie, d'autres qui sont plus tournées vers le développement territorial, d'autres encore vers l'aide caritative. Hein, on peut avoir des monnaies locales qui sont aussi là, comme des associations à but non lucratif, qui vont utiliser une partie de leurs ressources pour aider des personnes défavorisées. Le deuxième aspect, donc on a bien un système de sélection selon une charte de l'ensemble des producteurs. Le deuxième aspect, c'est qu'on veut limiter le potentiel d'accumulation en créant des monnaies qui soient des monnaies à valeur limitée, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle aussi des monnaies fondantes. C'est-à-dire, ces monnaies sont échangeables un certain temps, au prix de une unité monétaire pour 1 euro. Et puis si au bout d'un moment on les accumule et on ne les dépense pas, eh bien, elles finissent par perdre leur valeur et voire même par disparaître. Donc ça, c'est l'idée d'empêcher l'accumulation et de faire en sorte que toujours cette monnaie circule et toujours les gens les utilisent dans le réseau approprié. Bien sûr, le principal, le principe essentiel, c'est que chaque usager producteur participe à la rédaction de la charte, au choix des producteurs, à la gestion de la monnaie. Et puis, c'est une monnaie qui est légale, qui, bien sûr, est adossée à la monnaie officielle, hein, c'est-à-dire qu'une unité monétaire est toujours égale à 1 euro. Et puis que les profits qui sont faits dans cette monnaie ou les activités économiques qui sont produites cette monnaie, ils payent aussi des impôts, bien sûr. Hein, on paye la TVA sur les ventes qu'on fait dans cette monnaie locale. On paye des impôts sur les sociétés si on est entreprise et qu'on fait des profits. Voilà, et tout cela reste dans le système légal. Là aussi, il y a des problèmes. Alors, évidemment, ça, c'est des choses qui émergent vraiment beaucoup, hein, les monnaies locales complémentaires. Il y en a très nombreuses dans toutes les grandes villes. Il y a un certain nombre d'associations qui essaient de se créer, hein, pour porter ces monnaies locales. Je sais que, par exemple, récemment, on essayait de créer une monnaie locale à Clermont-Ferrand. À Grenoble, la monnaie s'est créée récemment sous l'égide de la mairie de Grenoble. Alors, il faut voir que très souvent, ces monnaies sont organisées. Alors, parfois, très souvent, elles sont organisées par des associations. Hein, par des associations. Et puis, très souvent, elles sont aussi portées par certaines municipalités. Hein, donc, parfois, elles sont, les municipalités, les territoires, les collectivités territoriales sont participent de la création de ces monnaies locales. Alors, où est le problème ? Enfin, quels sont les problèmes qui émergent ? Parce qu'il y a des problèmes qui émergent. Le problème, c'est finalement comment on fait vraiment pour... On certifie les producteurs. Hein, le principe, c'est que les gens qui utilisent ces monnaies, les producteurs, sont certifiés par l'association. Mais comment fait-on pour vérifier que ces producteurs sont totalement honnêtes ? C'est pas si simple. C'est-à-dire, il faut des moyens. Il faut vérifier que ces producteurs ne sont pas juste hypocrites, hein, profitent du système sans contribuer aussi en respectant au minimum les chartes données. Donc là, premier problème, c'est le problème toujours du contrôle. Deuxième problème, comme dans les structures de l'économie sociale et solidaire, il peut y avoir des conflits au sein des associations qui gèrent ces monnaies locales. Certaines associations peuvent être dirigées par des personnes qui ne sont pas toujours d'accord sur les chartes, sur la manière de gérer la monnaie. Et donc, il peut y avoir aussi des captations, comme dans toute structure associative, d'autant plus s'il y a des enjeux derrière, des enjeux économiques. Certaines personnes peuvent prendre le pouvoir dans ces associations et parfois, diverger ou faire des choses qui sont en contradiction avec les valeurs qu'ils professent. Puis il y a un troisième problème, alors qui est à mon avis un problème très important, philosophique presque, et qui a été étudié récemment par des chercheurs de l'université d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Je vous dis, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, on essaie de mettre en œuvre une monnaie locale. Donc il y a une structure associative qui porte le projet. Alors cette structure de militants, hein, très engagés, a commencé à trouver des producteurs, à avoir des membres, à accumuler des membres, etc., qui sont engagés et tout ça. Et l'objectif de cette association, c'est bien sûr de se développer, c'est-à-dire d'avoir un territoire plus vaste, de toucher plus de personnes. Sauf que donc nos amis que j'ai qui ont fait des recherches, qui ont étudié, ils ont essayé d'étudier la sociologie de ceux qui étaient partie prenante de cette monnaie locale et de la comparer avec la sociologie des autres personnes qui ne participent pas. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que finalement, ces personnes étaient d'une sociologie très particulière. C'est déjà des militants, des gens qui achètent déjà du bio, qui sont déjà très engagés, et que en fait, cette structure, cette monnaie locale, n'implique pas des personnes qui sont, on va dire, des personnes non engagées ou non déjà impliquées. Et donc, se pose par exemple la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vous parlais du McDo. Est-ce qu'on pourrait envisager que des entreprises, des supermarchés ou des McDo, les produits que les gens utilisent, est-ce qu'on pourrait envisager qu'on puisse avoir ces monnaies-là pour défendre ce type de producteurs? Alors bien sûr, les gens disent non, pas du tout. Nous, on veut faire des modèles alternatifs, on ne va pas aller dans la malbouffe, quoi. Mais le problème, c'est que si on est trop rigide sur les chartes, eh bien, de fait, on va réduire le périmètre qu'on peut avoir et on va exclure de fait toutes les personnes qui vont faire leurs courses dans les supermarchés, qui vont manger à McDo, etc. Et donc, alors il n'y a pas de réponse à ça. C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment fait-on ? Est-ce qu'il faut qu'on soit les plus puristes possibles dans la rédaction de la charte, les plus exigeants, hein, sur les systèmes de production qu'on veut aider par ces systèmes de monnaie locale. Mais dans ce cas-là, on risque de limiter, finalement, de se limiter à quelques centaines d'utilisateurs déjà militants qui, de toute façon, auraient consommé de manière responsable. Ou est-ce qu'on élargit ? Mais dans ce cas-là, si on élargit trop, on finit par plus avoir aucun critère et puis par plus faire ce qu'on était supposé faire à la base. Donc, tout ça n'est pas simple.
Studio Cef. On vient d'écouter un extrait de la conférence de David Kella, économiste à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés. Donc, il nous a fait une petite définition, plutôt une longue définition des monnaies locales complémentaires. Vous, en tant que membre d'un collectif qui essaye de mettre en place une monnaie locale complémentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette définition ?
Eh bien, déjà, le collectif, il s'est formé il y a un an, et on a accumulé des renseignements, des notions d'économie sur les monnaies locales complémentaires pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'était de monnaie complémentaire. À l'origine, on est tous intéressés par l'économie solidaire et on voyait que ça émergeait dans beaucoup d'endroits. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? On a été convaincus que ça pouvait apporter des bénéfices sur un territoire, et donc à partir de là, à partir d'expériences qui ont déjà été menées, on est très pragmatique. On s'est dit, tiens, il y a des bénéfices sur le territoire, ils sont intéressants. On va se renseigner également sur les problématiques, donc les trois problèmes dont parlait David. Le contrôle des producteurs,
le contrôle, exactement.
La gouvernance pour éviter que ça devienne quelque chose... un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'associations, finalement, contrôlé par juste quelques personnes ou des gros problèmes de gérance dans l'association. Et enfin, le problème d'élargir ou pas d'une base de militants, donc réduite, mais d'élargir trop et potentiellement de perdre son âme, entre parenthèses. Oui, ces problèmes, on les connaît. On est parti sur une piste très pragmatique, et ça, c'est sans doute intéressant de voir. Pour nous, essentiellement, quels sont les bénéfices sur un territoire que peut avoir une monnaie locale complémentaire ?
Oui, tout à fait, parce que ça critique déjà, je trouve, qu'il part tout de suite sur un conflit entre la monnaie telle qu'elle est actuellement utilisée et l'utilisation des monnaies locales complémentaires. Le but d'une monnaie locale complémentaire, ce n'est pas de changer le système et de prendre la place.
Elle est complémentaire.
Voilà, tout à fait. Elle est vraiment utilisée pour une autre utilisation. C'est un outil qui est censé donner un souffle sur un territoire. Et pour cela, elle a donc certains bénéfices à apporter qui sont donc complémentaires à une monnaie d'échange plus supranationale. Donc on a identifié quatre bénéfices principaux sur un territoire. Donc il y a les bénéfices économiques. Cela permet donc de relocaliser une partie des achats de services et de produits, donc vers des producteurs locaux, des artisans, des entreprises. Il y a donc un certain soutien à l'emploi local, voire de la création, si c'est possible, si des entreprises peuvent se rendre compte qu'il peut y avoir un marché qui puisse s'ouvrir. Le dernier bénéfice économique, en fait, c'est le fait de déposer l'argent transféré de l'euro vers cette monnaie locale sur un fonds de garantie dans une banque. Et cet argent sera prêté ensuite à l'économie locale réelle, donc sous forme de prêts rémunérés, ce qui peut permettre des investissements dans les entreprises, chez les artisans, chez les producteurs.
Ça, c'est une dimension qui est très intéressante dans les monnaies locales. C'est ce doublement de la masse monétaire transformée en monnaie locale. Mmh. En tant qu'utilisateur, on ne perd pas en pouvoir d'achat. 20 euros transformés en monnaie locale restent 20 unités qui sont toujours utilisables, mais dans un réseau donné de prestataires. Et les 20 euros, eux, sont déposés sur un fonds de garantie pour garantir la valeur de la monnaie locale. Et généralement, ce sont une banque éthique qui est choisie et qui réellement n'utilise que l'argent pour pouvoir accorder des prêts de développement d'activités économiques dans l'économie réelle et qui n'est pas spéculative. Donc là, on a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus.
Par rapport à l'écriture,
il y a d'autres...
D'autres points, oui.
Ah oui, oui, parce que là, du coup, on est allé juste sur l'économique. Et heureusement, le monnaie locale ne se réduit pas uniquement
que à l'économie. Alors on peut citer également des bénéfices écologiques et environnementaux. Donc la relocalisation de l'économie induit donc des circuits courts. Puisqu'on utilise des faibles distances pour les transports de marchandises. L'utilisation de cette monnaie vers des producteurs qui peuvent avoir des pratiques plus respectueuses. Mais là, on rentre plus dans la charte spécifiquement. Les deux derniers bénéfices que l'on a identifiés, c'est la pédagogie et le lien social que cela peut induire. Tout simplement se poser la question qui produit cette marchandise, comment elle est produite, ouvrir en fait la discussion vers son boucher, son boulanger ou vers un plombier, tout simplement pour savoir comment il travaille. Donc ça peut créer ensuite des discussions et vraiment créer du lien, créer de la connaissance. Et puis ce lien social, c'est aussi donc une gouvernance partagée dans une association. Pouvoir tous prendre part à un projet collectif, prendre des décisions ensemble. Et avec l'utilisation de cette monnaie locale, les bénéfices de l'association peuvent être distribués sous forme de dons au monde associatif pour leurs projets et continuer donc la dynamique positive sur le territoire, sur d'autres thématiques qui peuvent être alternatives ou fédératrices.
J'avais une question. Vous travaillez depuis pratiquement un an sur ce projet. Comment vous vous êtes organisé? C'est-à-dire que il me semble que vous n'êtes pas une association, vous êtes un collectif, c'est bien ça?
Oui, voilà, on s'est vraiment rencontrés sur cette thématique. À fur et à mesure, des personnes se sont greffées. On s'est rencontrés à peu près sous le rythme d'une fois par mois pour essayer de voir vers quelle dynamique on pouvait aller. Donc c'est pour ça au début qu'on a pris le nom de monnaie locale complémentaire Val de Loire, puisqu'on n'avait pas on ne s'était pas mis de limite géographique et on ne savait pas vraiment comment utiliser cette monnaie. Donc on a utilisé le terme de l'UNESCO qui caractérise notre territoire. Et puis nous avons démarré par la création d'un flyer pour essayer de communiquer vers l'extérieur, communiquer sur ce qui est une monnaie locale, ses bénéfices locaux, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et essayer de ramener d'autres personnes dans le collectif pour le faire grossir et le rendre plus représentatif. Et donc récemment, on s'est rendu compte qu'à force de se rencontrer, mais sans avoir d'action réelle, on perdait un peu de souffle sur quand même une action qui nous tenait tous à cœur, avec une réelle possibilité que cela puisse émerger sur notre territoire. Donc on a décidé d'être vraiment plus opérationnel et se donner des étapes concrètes vers le lancement de la monnaie. Donc on s'est donné l'objectif de la lancer à l'été 2016. Avec des objectifs tels que voilà, la création de l'association avec le nom de la monnaie locale, d'où un sondage public actuellement en ligne pour continuer cette dynamique.
Oui, c'est ça, jusqu'au 14 octobre. c'est vraiment important, ça fait partie de cette volonté d'implication des habitants du territoire. Jusqu'au 14 octobre, des personnes, et même sur les territoires adjacents à là où la monnaie va circuler, peuvent donner leur avis par rapport aux différentes propositions de noms. Et le sondage, on le trouve sur notre site qui est monnaie-locale-valdeloire.org. Mm-hmm. Et nous, on trouve vraiment ça vraiment très important de donner, de proposer aux personnes du territoire de donner leur avis sur ensuite qu'est-ce que sera leur monnaie. Alors on commence par un nom pour que ensuite ce soit du concret.
C'est-à-dire que vous, la troisième problématique qui était citée par David Kella, c'est-à-dire comment la population va s'approprier cette monnaie et comment élargir, eh bien, c'est, on va dire, les personnes utilisant cette monnaie. Vous avez directement travaillé sur cette problématique dès le début, en fait.
Oui, et d'ailleurs, on a quelques petites idées derrière la tête pour répondre à cette problématique de dépasser cette base militante sans perdre le fond, le sens de notre action. Mais ça, ce sera au fur et à mesure du lancement de la monnaie qu'on va pouvoir le dire tout de suite. Ce serait pas drôle.
Bon, il y aura quand même pas McDonald's dans votre... Charte.
Bah, a priori, je suis pas sûr que ce qu'on mange chez McDo soit produit localement de toute façon.
D'accord, c'est rassurant. On peut d'ailleurs, là, j'ai imprimé sur le site, on trouve la liste des noms proposés et on peut voter pour ces noms, pour choisir le nom de la monnaie. Oui. Il y a des noms assez marrants, hein, d'ailleurs. L'origami, le brousouf, l'unité, le touron, voilà. Vous pouvez regarder cette liste et puis aller voter.
C'est marrant que vous citiez cela parce qu'il y a eu un petit changement depuis.
Ah.
On avait laissé ouvert la possibilité de proposer de nouveaux noms au début du sondage et nous sommes arrivés quasiment à 80 noms, 80 propositions, ce qui est assez énorme. Donc nous avons décidé tous ensemble en réunion. Il y avait une proposition d'arrêter l'ouverture à la proposition de nouveaux noms, donc ça a été accepté à l'unanimité, et aussi l'élimination au fur et à mesure des noms parce que le vote en fait, on vote à la fois pour les noms qu'on aime bien, mais aussi pour les noms qu'on trouve pas du tout adaptés pour une monnaie locale. Et du coup, on a décidé que à partir d'un certain pourcentage de votes négatifs, les noms étaient éliminés. Et donc, malheureusement, on ne peut plus voter ni pour le brousouf, ni pour origami, qui ont été deux des noms éliminés le 1er octobre.
Bon, voilà, vous avez les grands perdants du sondage.
Bah, l'important, c'est que ce soit le territoire qui soit gagnant, avec un nom qui représente suffisamment tout le monde.
D'accord. Ce qu'a cité tout à l'heure David Kiela, c'est que souvent l'association est liée à la municipalité, en partenariat avec la municipalité. Est-ce que vous prévoyez de faire ceci? Et pourquoi? Ou pourquoi non? Pourquoi oui?
Alors, actuellement, nous sommes un collectif d'habitants. Nous trouvons que c'est vraiment très bien de démarrer les choses comme ça. Donc, l'origine du projet, pour nous, n'est absolument pas liée à une municipalité. Ensuite, bon, c'est tout se construit au fur et à mesure. Dans ce que disait David Kella, il disait que, comme dans toute association, il y a des problèmes de gouvernance citoyenne, mmh. avec des gens qui ont des idées différentes et qui n'arrivent pas à s'entendre, et ainsi de suite. Nous, on a la chance d'avoir des techniques d'animation de réunion, de prise de décision, consentement, et ainsi de suite, qui font qu'on arrive à impliquer beaucoup de monde, avec des façons de penser différentes, sans qu'il y ait forcément de grandes batailles et prises de pouvoir. Donc, nous n'avons pas... Pour l'instant, et grâce à une expertise en partie du Cressol, échapper à ces grandes problématiques de scission, de combat dans les associations. Et David Calab disait que potentiellement, le fait d'être adossé à une municipalité évitait de tomber dans ces conflits citoyens. Nous, finalement, on a trouvé une solution qui est d'utiliser des outils de médiation et de participation non violente entre les différentes parties prenantes et qui nous permet pour l'instant de voir l'avenir de façon assez sereine.
D'accord, très bien. Est-ce qu'on pourra retrouver... Oui, quelque chose à ajouter?
Non.
Est-ce qu'on pourra retrouver cette monnaie locale à Blois, par exemple, c'est un peu loin de Tours, mais est-ce que les habitants de Blois pourront en bénéficier?
Alors, au tout départ, comme le disait Frédéric, on n'avait pas de définition géographique pour la monnaie locale. Ensuite, c'est pour ça que le site internet lui-même s'appelle Monnaie locale Val-de-Loire. Dans les premières réunions, on a décidé comment est-ce qu'on allait fonctionner et prendre les décisions, et on a aussi fonctionné quel était potentiellement notre territoire d'action. Donc on est tombé d'accord sur le bassin de vie dont l'épicentre est Tours. Donc, c'est-à-dire, c'est pas Tours, c'est pas l'agglomération tourangelle, c'est une communication entre le territoire rural et urbain, vraiment le bassin de vie. Ensuite, par rapport aux contraintes réglementaires, la monnaie locale n'a pas le droit d'être sur un territoire trop étendu.
D'accord.
Donc, si un jour un collectif pense qu'une monnaie locale qui a des valeurs proches de celles qu'on va développer en Touraine peut être générée à Blois, on sera extrêmement heureux de pouvoir partager notre expérience et même les aider, les soutenir dans cette aventure. Ça pourrait même être des monnaies sœurs qui ont les, finalement le même fondement, mais elles ne pourront pas avoir le même nom et elles ne pourront pas être... Mais bon, on a la chance en plus d'avoir un Bézien dans
le Blésois.
Blésois.
voilà, pour l'actualité de cette monnaie locale, je crois que voilà, là vous êtes en train de choisir le nom, c'est bien ça. Enfin, les personnes qui en bénéficieront sont en train de choisir le nom. Quand est-ce qu'il va y avoir cette délibération? Quand est-ce qu'on va savoir le nom de cette monnaie locale? Et puis, quel est le programme pour la suite?
Alors, comme nous avions dit, le sondage est clôturé le 14 octobre, donc jeudi la semaine prochaine, et nous annonçons le nom de la monnaie le 16, donc en faisant une annonce presse et puis une annonce ouverte à tous en public, avec un débat autour de la monnaie, un bien commun. Donc ça s'inscrit dans le thème actuel de la quinzaine du temps des biens communs qui se passe en Touraine.
Et surtout la francophonie, la quinzaine, le temps des communs, c'est toute la francophonie. Et c'est vrai qu'à Tours, on a réussi à avoir pas mal d'événements sur ce thème. Et la monnaie locale participe au temps des communs avec cette réflexion, la monnaie, un bien commun. Point d'interrogation. Et l'annonce du nom retenu, en effet. Ouais. Les prochaines étapes, ce sera sans doute la création de l'association à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il y aura également une réflexion sur l'effigie, les effigies des coupons. Pour que...
Alors, coupons, jetons, billets, chéquiers, ça peut prendre différentes formes, en fait.
Coupons ou billets, pour nous, c'est la même chose. Pour notre but pédagogique et pour que ce soit accessible à tous, on a de toute façon déjà décidé qu'il y aura des coupons papier, donc des billets. Ensuite, il y a des personnes qui aimeraient également que son fonctionnement puisse être dématérialisé. Ça a des contraintes réglementaires un petit peu différentes. Donc on essaie de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, sur quel organisme s'adosser pour faire ça et tout ça. Mais on verra, il y a encore des choses en construction. D'ailleurs, si jamais le sujet intéresse les auditeurs et qui veulent se renseigner un peu plus, voire rejoindre le collectif ou créer un collectif à Blois, c'est toujours possible parce qu'on n'est pas du tout bloqué dans un schéma précis, on écoute toutes les voix, il y a encore tellement de choses à faire et à définir ensemble. Moi, je trouve que l'aventure humaine est aussi précieuse que potentiellement l'outil qu'on va réussir à faire émerger.
On arrive à la fin de cette émission, ça fait déjà une heure qu'on est en train de discuter autour du plateau de Studio Zef. Est-ce que vous avez des choses à rajouter en conclusion? On peut peut-être tout de suite éviter l'ambiguïté entre le Cressol et le collectif Monnaie Locale.
Oui, alors là c'est assez exceptionnel, on est trois hommes autour de la table qui faisons partie du Cressol, alors que le collectif d'habitants c'est absolument pas ça. On a une... sans avoir choisi quoi que ce soit, on a accueilli tout le monde. Le collectif est assez paritaire, hein, y a autant d'hommes que de femmes. Nous, on était juste disponibles aujourd'hui. Et il y a tous les âges, des très jeunes aux pré-retraités. Aux retraités. et également, pas uniquement des urbains, également... des personnes d'autres territoires plus éloignées de Tours. On trouve que c'est vraiment très, très important, cette connexion monde rural, monde urbain, et que ce ne soit pas uniquement un outil urbain.
Donc Stéphane, Raymond, Frédéric, membres du CA du Cressol et aussi du collectif citoyen Monnaie Locale Complémentaire. Merci d'être venu dans le studio. N'hésitez pas à revenir. Nous, à Studio Zef, ça nous intéresse beaucoup, ce genre de sujet. On fait partie d'une association qui aussi met en avant la coopération dans les écoles. On a parlé tout à l'heure d'éducation à la coopération. C'est pas mal quand ça commence tout petit avec une coopérative scolaire. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Merci, au revoir. Guillaume.